Il y en a quand même qui sont drôles, qui présentent les Césars. Alors j'ai voulu me faire un petit plaisir. J'espère que ça va vous faire plaisir.
Édouard Baird.
Alors Édouard Baird, bien sûr. Antoine Decaune, qui était très bon aussi.
À l'époque, il y avait du contenu.
Ah ben oui. Et moi, je vous ai pris une intervention de Jérôme Commandeur, qui avait déjà présenté la soirée. Mais là, il vient pour donner un César. César du meilleur montage. Je vous propose, ça dure 2-3 minutes, mais ça va nous détendre.
Bonsoir, Jérôme.
Bonsoir. J'ai un très gros nœud, mais c'est parce que je sors d'un régime assez conséquent. Voilà, j'ai beaucoup minci, du coup j'ai mon corps qui correspond plus avec mon nœud. Voilà. Je sais pas comment vous traduirez ça, monsieur Redford, vous vous démerdez. Ce César du meilleur montage devait être remis par mon ami, votre ami, la grande, la reine, l'éternelle comédienne Betty Marmont. Et vous avez tous vu l'actualité tragique de ce matin, ce satané rhume qui a tout précipité vers midi. Betty est partie rejoindre les étoiles et assiste au César assise sur son petit nuage. À 102 ans, tu es parti trop tôt. Toi qui aimais tant les grands textes, quelle plus belle fin que de partir en éternuant, que de disparaître dans un hatchoum. Pourtant, tu étais si heureuse de sortir de ton EHPAD pour venir nous voir ce soir. On avait fait passer le coiffeur, tu étais si belle sous tes bigoudis chauffants. Enfin, ton bigoudi. Tu avais ressorti ta robe fourreau fétiche que tu portais à l'avant-première de La Bête humaine de Renoir au Grand Rex en 1938. Ton premier film, d'ailleurs, où tu glissais une bûche dans la locomotive derrière Jean Gabin. Personne ici n'a oublié cet immense moment de cinéma, ma Betty. Comment te rendre hommage en quelques secondes à toi, l'amoureuse de la pellicule, la défricheuse, la mâchoire aux mille dents? Tu aurais été si heureuse de remettre ce César du meilleur montage. Car tu le disais toi-même, un film, c'est comme un homme, c'est quand c'est bien monté que ça devient intéressant. Toi, la coquine, qui fut la première à passer sous le bureau des frères Lumière pour avoir un rôle. Comme tu me disais toujours, de là-dessous, on savait même plus si c'était celle d'Auguste ou celle de Louis. Qui t'a chopé un limbago, autant que ce soit pour quelque chose. Ton pic de carrière, ton moment, a lieu entre 1940 et 44. Où tu tournes 150 films grâce à ta parfaite maîtrise de l'allemand. Langue que tu avais choisie en LV1. Comme quoi, le talent ne fait pas tout, hein, faut aussi de la chance. Alors oui, de 1945 à 2019, ta carrière a connu un léger creux. Mais tu as fait contre mauvaise fortune bon cœur en te consacrant avec amour aux hommes de ta vie. Luis Mariano, Jean Marais, Jean-Claude Brialy. Comme tu me le disais si bien, ils m'ont pas toujours tout dit, ces cons-là. Bon voyage, ma Betty. Enfin non, t'es déjà arrivé. Bon séjour.
Voilà.
Je savais pas que Luis Mariano.
Ah bah si. Ah bah si. Donc voilà.
Génial.
Hein?
Bah oui, au moins on rigolait quoi. Oh.
Jérôme Commandeur, je sais pas vous, mais moi il me fait vraiment rire. Ouais. Il est vraiment très drôle. Bon, voilà, je pense qu'on a défriché, hein.
Déchiffré
aussi. J'avais d'autres extraits aussi à vous faire écouter, mais on va passer du coq à l'âne et parler, si vous êtes d'accord, de cet adage des années 2000. De toute façon, on ne peut plus rien dire. Non, mais c'est vrai, on ne peut plus rien dire. On prend toujours en exemple les années 70-80, où l'on pouvait tout dire, que ce soit à la télé, dans les médias, dans les chansons, justement. Parlons-en des chansons. Les chansons, la dernière en date, vous savez laquelle ?
Chaud cacao, chaud chocolat.
Eh oui.
Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Chaud cacao.
Suspecté.
Chaud chocolat.
suspecté de racisme d'Annie Cordy. La Belgique se déchire autour d'Annie Cordy. Tout a commencé lorsque Bruxelles a voulu renommer le tunnel Léopold II pour oublier son passé colonial. Alors, à l'occasion de la journée des droits des femmes, un vote avait été organisé. Le résultat est tombé. L'interprète de Tata Yo-Yo et de La Bonne du Curé l'a emporté devant 14 autres personnalités féminines. Et il y avait du beau monde, hein. Il y avait la résistante André Dejon qui était là, la romancière née à Bruxelles, Marguerite Yourcenar, la juriste et féministe belge Marie Poplin et d'autres figures comme Marie Curie, Rosa Parks, Simone Veil. C'est Annie Cordy qui s'est démarquée clairement parmi les 15 candidates et qui a reçu 22% des votes pour qu'on puisse prendre Annie Cordy et qu'on colle son nom sur ce fameux tunnel. Et des assos sont montés au créneau en expliquant que c'était pas normal de remplacer le nom de Léopold II, figure controversée du passé colonial en Belgique, par Annie Cordy qui chante des chansons racistes. Donc voilà, ben je voulais vous faire réagir là-dessus. Est-ce que effectivement Annie Cordy, avec son show Cacao, fait partie des chanteuses racistes?
Manifestement. Qu'est-ce que dire de La Bonne du Curé?
Ah bah, c'est chanson pédophile, hein, je
voilà,
m'excuse.
Frida Oumpapa.
Chanson nazie.
Oui, et Jeanne la Tarzane.
Ah là, je sais pas. Moi j'en avais une autre, c'était Tata Yo-Yo, chanson homophobe. Et La Bonne du Curé, bon, on l'a dit.
Pour parler autre que Annie Cordy, j'ai lu qu'il fallait brûler les livres de Oui-Oui.
Ah oui,
pour
non.
Pour ne pas heurter la sensibilité des négationnistes. C'est magnifique. Hein.
Ouais, c'est très drôle. C'est
les
très drôle.
Baptisé non.
Voilà, absolument. Non, mais c'est quand même très étonnant. D'autant plus que j'ai vu aussi qu'il y avait certains musées qui voulaient arrêter les chiffres romains. J'ai regardé, c'est le musée Carnavalet à Paris et le Louvre qui emboîte le pas. Non, franchement, Jean-Paul, on nivelle par le bas, là.
Moi, je trouve que c'est un petit peu exagéré. En ce qui concerne le tunnel, puisqu'on n'est pas sorti du tunnel pour l'histoire, je pense que c'est de l'humour, l'histoire de Léopold II, dont on se fout complètement. Et de...
Oui, comment pas, s'appelle les
pas les Belges.
Non, voilà. Non, il s'en moque pas, là-bas, c'est sérieux.
Et Annie Cordy, mon Dieu, non, c'est un trait d'humour, tout ça, c'est pas possible. Qu'ils se prennent leur temps, ils ont que ça.
Non mais tout à l'heure on parlait de Coluche. Bah, Coluche avec ses blagues sur le CRS arabe, sur les
oui,
Noirs.
Non mais ça c'est plus possible.
Eh ben oui, mais alors on va l'interdire.
Ben oui. Non mais c'est
Coluche,
c'est un vrai...
n'a plus, ah oui. N'a plus droit non, au chapitre. Non.
Téléphone qui sonne.
Allô.
Ah non, parce que je m'excuse de t'avoir interrompu. On
mais
est en direct.
Tous les droits, Thierry.
Mais je t'en prie. On est en direct avec Louis Albran. Salut Loulou.
Bonjour mes amis, bonjour à tous.
Bonjour.
Comment
bonjour.
Ça va?
Et merci pour votre invitation.
Ben tu sais que c'est toujours un plaisir. La semaine dernière, il y avait des filles, donc je t'ai mis sur la touche. Hein, je suis désolé.
Mais tu sais que notre ton émission devient un peu l'émission de référence pour le Covid. J'ai beaucoup d'appels. Hein.
Alors on va pouvoir en parler avec la première question puisque on est autour de cette table pratiquement tous vaccinés. Philippe Stockley vacciné.
Vacciné AstraZeneca.
Avec AstraZeneca.
Pfizer,
Rémi Suissa.
Pfizer.
Avec Pfizer.
JP avec le même nom que j'arrive pas à prononcer. Mais
Pfizer aussi, Jean-Paul.
Voilà.
Bon, après,
deux
donc.
Fois, moi
on,
deux fois, ouais.
On a un gamin avec nous, Philippe Esquer. Donc ouais. Lui.
Pas bon, encore.
Pas encore.
Bientôt,
voilà. Ouais, et moi, je ne fais pas encore partie de la catégorie non plus. Donc, je voudrais revenir avec toi, Louis, sur ce qui s'est passé sur AstraZeneca. Le fait que, il y a eu cet effet domino. Avec tout d'abord, je pense que c'est la Norvège ou le Danemark qui a stoppé. Ensuite, ça s'est étendu à la Suède, l'Islande. Bref, il y a eu plusieurs pays. L'Allemagne qui a basculé et du coup la France qui a emboîté le pas.
Ah oui, bien
parce
sûr.
Que ça aurait été quand même très compliqué, vu notre proximité avec nos amis allemands, de continuer à...
C'est pas une histoire de proximité, c'est une histoire de... Monsieur Macron est très sous l'influence de sa grande sœur, Madame Merkel.
Oui, on avait comprend Louis que oui. C'était compliqué quand même, quoi qu'il en soit, pour lui de continuer alors que les Allemands avaient arrêté.
Beaucoup de pays ont continué. On aurait pu attendre la décision des autorités sanitaires, d'ailleurs, et qui déjà disait qu'il y avait eu 28 pseudo-accidents avec Pfizer et peut-être 30 oui. Avec Zeneca. Tout ça n'est pas établi, c'était une rumeur. Hein.
Oui. Non seulement c'est pas établi, mais soyons aussi objectifs. Une trentaine de cas sur 20 millions de vaccins, c'est ridicule.
Enfin, ça a été malheureux parce que ça a jeté la suspicion et ça a encore aggravé un domaine dans lequel nous sommes complètement en échec, c'est le problème de la vaccination. Je crois que nous avons, ce confinement d'ailleurs parisien, là, est bien la preuve de l'échec dans deux domaines. Une mauvaise gestion de la réanimation, je ne sais pas si tu as entendu ces jours-ci Peloux, Patrick Peloux, qui était plutôt macronien de la première heure, qui a poussé un coup de gueule en disant que c'est scandaleux. On a encore diminué des lits de réanimation cette année. Et c'est quand même humiliant de faire appel aux Belges et au Luxembourg pour à adresser nos malades. Nous sommes une des premières puissances mondiales. Tout ça est ridicule. Donc on a mal géré la réanimation. L'ARS n'a pas fait son boulot. En IDF, il y a 12 millions d'habitants, il y a 1000 lits, il devrait y en avoir 2-3 000.
Ouais. Voilà. Bon, enfin, quand on a dit ça, Loulou, quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce que de toute façon, on sait pertinemment que même si on avait 100 000 lits d'hôpitaux pour accueillir tous les malades, ce n'est pas le but du jeu de faire entrer les malades à l'hôpital. Le but, c'est de casser ce virus.
Oui, mais pour casser le virus, il fallait, on l'avait dit à Briançon lors de la réunion qui avait organisée, qui était très intéressante, dès l'apparition de ce variant anglais, on savait que c'était une course de vitesse contre le variant. Ouais. Il fallait aller vite pour la vaccination. Et nous sommes aujourd'hui le 40e pays au monde pour l'efficacité de la vaccination. Mmh. Voilà. Mmh. Nous avons, dans les Hautes-Alpes, il y a 7% des Haut-Alpins qui ont reçu une première dose seulement, et il y a 37% des Anglais qui sont totalement vaccinés. Mmh. Voilà. La Commission européenne a voulu jouer la mariée belle, avoir les bas prix. Voilà.
Mais oui.
Surtout au point de vue logistique, les Allemands ont fait appel depuis hier à l'armée. En Italie, on a nommé un général 4 étoiles pour coordonner tout ça. Et en France, bah, c'est une gentille pagaille. Voilà.
Oui, ben, en attendant, là, le problème européen, il est bien ancré dans le sens où, tu sais comme moi, que c'est l'Europe qui a traité le dossier des vaccins. Et donc, on est comme les Allemands, pieds et mains liés à attendre que...
Non. La Pologne a fait appel au vaccin Sputnik. La Hongrie a fait appel à un autre vaccin. Non, il y a d'autres pays qui s'en sortent beaucoup mieux que nous. Et la France en sort très mal. On va encore payer sur le plan financier, économique et social très cher ce confinement parisien. Non, il faut faire le constat d'échec. Et oui. Il y a beaucoup de ministres aujourd'hui dans le privé auraient été vidés depuis longtemps. Et je pense que c'est ridicule et scandaleux que M. Véran soit encore en poste. Qui a fait preuve de sa grande efficacité.
Oui, ben alors donc on le vire, on en met un autre à la place et dans 3 semaines, on dit la même chose, non ?
Mais pas forcément. Je pense que par exemple, M. Sarkozy aurait beaucoup mieux géré cette affaire. Il aurait mieux géré la...
Oh, Nicolas, le retour.
Oui, je pense. Et je ne suis pas un Sarkozy. Mais tu connais mes idées politiques. D'ailleurs, personne ne les connaît, mais moi, je les connais. Et non, il faut faire constat d'échec maintenant. J'étais hier à une réunion à Val d'Isère avec tous les grands patrons, parce que je suis conseiller de plusieurs décideurs du domaine du ski. Ils ne sont pas sûrs d'ouvrir les stations à l'automne prochain.
À l'automne ?
Et moi, je suis... Oui, tous mes amis de pasteurs... Non, mais écoute-moi. Moi, je vois des gens à pasteurs, des gens qui voient loin. Le scénario noir n'est pas impensable. Ça peut durer très longtemps. Au rythme de vaccination, je ne vois pas de réouverture des stations cet automne. Je te l'avais dit à Briançon, quand j'avais dit qu'il n'y aurait pas d'immunité collective avant 2022... Je me souviens de les inviter autour de la table et c'est plus ou moins sûr. Et je signe, il n'y aura pas d'immunité collective en 2022.
Non, moi je fais un sondage, on est 5 autour de la table, il y a 3 un peu plus âgés que les autres, on est vaccinés, point. Je pense qu'il n'y a, voilà, a qu'une façon de se battre contre ce truc, c'est de se faire vacciner et puis arrêter de politiser le vaccin. Quoi.
Et voilà, et puis
Le fait qu'il y ait donc un reconfinement territorial, on va dire, régional, c'est plutôt une bonne chose pour toi, Loulou ?
Mais ce confinement va arriver jusqu'à nous parce que, comme on l'avait dit, ce virus anglais... Je me suis trompé sur un point, j'avais dit que ce virus n'était pas plus mortel, c'est faux. Mes amis de la réadaptation me disent qu'ils reçoivent maintenant des gens plus jeunes qui ont ce virus.
Ouais.
Avant, le tiers des admis bénéficiaient de ce qu'on appelle une réanimation lourde avec intubation, etc. Aujourd'hui, c'est 80%. Mmh, mmh. Donc ce virus va arriver chez nous, je ne vois pas pourquoi il arriverait jusqu'ici, et d'ici quelques... Moi, nous serons confinés, nous aussi.
Bon,
je pense d'ailleurs que ce confinement, on est confiné, mais vous pouvez sortir, vous balader toute la journée jusqu'à 10 km de chez vous.
Ouais.
Je ne pense pas qu'il aura une efficacité exceptionnelle.
Ben oui, mais le problème, c'est que on peut pas refermer le pays entier, parce que l'histoire, elle est simple, hein. Refermer le pays tout entier, ok, mais pour pouvoir vacciner. Le problème, c'est que si on referme le pays entier, on ne peut pas tout vacciner parce qu'on n'a pas assez de vaccins. Donc, à partir de là, c'est compliqué.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de vaccins dans les frigidaires. Il y en a beaucoup. On a des vaccins. C'est la stratégie qui est mauvaise.
Que la stratégie soit mauvaise, je te l'accorde. C'est ton point de vue et je le respecte. Mais il faut pas imaginer qu'on ait 20 millions de doses qui attendent dans les frigos. Je crois qu'il doit y avoir 6 ou 7 millions de doses, pas plus pour l'instant. Donc, et on attend l'AstraZeneca qui normalement devrait arriver pour le mois prochain, hein, pas avant, hein, pour avoir le nombre de doses suffisant.
Oui, c'est bien pour ça que je t'ai dit, il n'y aura pas d'immunité collective avant 2022.
Bien.
Mais je suis désolé, aujourd'hui, ce n'était pas des bonnes nouvelles.
Hein, je vois ça. J'espère que ça ira mieux vendredi prochain, Louis.
J'espère.
Bon, en tout cas, merci.
En attendant, je vous souhaite une bonne semaine.
Merci de ta dispo.
Et salut. Et moi, je me suis fait vacciner aussi par l'Astra.
L'Astra aussi.
Je vais avoir le... Oui, je vais avoir le rappel et je vais y aller en courant d'ici quelques jours et j'ai tout à fait confiance dans tous les vaccins.
Très bien. Eh bien, ça, c'est le mot de la fin.
Faut le dire haut et fort.
Voilà. Merci, Loulou.
À bientôt.
Allez,
bon courage.
Ciao.